Merci à tous. Merci aux musiciens, aux chanteurs, à la technique. Et vous, parce que vous avez bien chanté. C'est vrai que c'est beau une assemblée qui chante les louanges de Dieu. Donc bienvenue à chacun, aux visiteurs, à ceux qui sont sur Zoom. C'est une grâce d'être là ensemble. Soyons-en persuadés. Il y a 5 semaines en arrière, nous avons célébré la résurrection du Christ, Jésus. Et c'est bien parce qu'il est ressuscité que nous sommes là ce matin, n'est-ce pas? Mais s'il y a eu résurrection, avant, il a fallu qu'il soit mort. Et la semaine qu'il a précédé sa résurrection, Jésus a subi des moments extrêmement difficiles. Il a subi des choses que nous pouvons difficilement imaginer. Il a connu les moments les plus denses, les plus dramatiques, les plus tragiques de sa vie sur terre, qui l'ont amené à la croix. Et de quoi est-il question pendant cette semaine ? De justice. D'abord, celle des hommes qui ont condamné à mort un innocent, puis celle de Dieu sur la croix. Tout est accompli, a dit Jésus sur sa croix avant de mourir. La justice de Dieu était satisfaite. Justice des hommes, justice de Dieu, vaste sujet. J'ai pris ce sujet avec ambition, ça m'a dépassé. J'ai dû réduire à plusieurs reprises. Et je demande à Dieu effectivement de m'aider et que le Seigneur nous aide à comprendre son amour à travers cette justice. Je vous propose de considérer donc ce sujet à partir de plusieurs aspects, plusieurs notions. La notion de justice des hommes. J'avais prévu la justice dans les psaumes, mais ce sujet à lui tout seul suffit. Donc je dirai simplement quelques mots sur la justice traitée dans l'Ancien Testament, la justice traitée dans le livre de Job, puis la justice de Dieu, notre situation et une perspective d'un monde meilleur. La justice des hommes. La justice, c'est la juste appréciation, la reconnaissance, le respect des droits de chacun et des mérites également. On agit avec justice et on rend la justice. La justice désigne avant tout une valeur, un idéal moral et une pensée philosophique. Elle est à la fois instinctive, c'est-à-dire que le sentiment d'injustice, surtout, nous l'avons tous, mais elle est complexe. De tout temps, les hommes ont établi des lois pour gérer la vie en société. Et de l'incivilité aux meurtres les plus atroces, la liste des injustices est longue. D'ailleurs, il suffit d'écouter les informations pour s'en convaincre. Les victimes demandent que justice soit faite. Oui, le problème est que son application est très compliquée à mettre en œuvre, parce que d'une part, les opinions, les sensibilités, les cultures sont différentes. Actuellement, par exemple, on entend ce débat sur la responsabilité des adolescents. Il y en a bien d'autres. Prenez par exemple la problématique de la peine de mort. « Je suis pour », chanter Michel Sardou en 1976, à la suite de l'assassinat d'un petit enfant de 7 ans par Patrick Henry. Et reprenant la souffrance du père, il chantait « Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang, aucun Dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau, tu périras. Le 9 février dernier, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, est décédé à l'âge de 95 ans. Un hommage national lui a été rendu en appliquant, en relevant son humanisme et sa passion pour la justice. Quel a été son cheminement ? 21 septembre 1971, à la prison de Clairvaux, Claude Buffet rejoint son complice, Roger Montand, à l'infirmerie. Ils prennent en otage le gardien et l'infirmière pour être libérés. Montand est un délinquant. Buffet, au contraire, est un meurtrier psychopathe. Et sa demande est prise très au sérieux. Ce qui fait qu'on décide, dans les sommets de l'État, de porter l'assaut. L'assaut est porté, mais il ne se passe pas du tout comme il était prévu. Et Buffet a le temps d'exécuter son œuvre, entre guillemets, à savoir que quand les policiers entrent, le gardien est égorgé et l'infirmière est agonisante. Cette infirmière est bien connue dans la région. Elle est mère de deux enfants. Et toute la population est émue, immensément émue, et elle crie à mort. La population est pour la peine de mort. Mais voilà, le problème est qu'il doit y avoir un procès. Et ce procès sera, quand ces deux individus seront traduits devant la juridiction de Troyes, où là, la foule est là et elle insiste « à mort » crie-t-elle dès leur arrivée. Et Robert Badinter, qui est nommé à ce moment-là avocat de Montand, s'apprête à donner sa version et à défendre ce Montand qui n'est qu'un délinquant. Jusqu'alors, le président Pompidou avait toujours gracié les condamnés à mort. Et il pensait que ça serait la même chose. Et donc il commence sa défense et il dit comme ça, on ne peut pas mettre à mort un assassin qui n'a pas assassiné. On ne peut pas condamner à mort un homme qui ne l'a pas donné. On ne le peut pas. Sa plaidoirie n'a pas été entendue et les deux individus sont condamnés à mort. Je dois dire que je n'oublierai jamais qu'en France, en 1972, j'ai vu exécuter un homme dont la cour d'assises avait reconnu qu'il n'avait jamais tué personne. Auparavant, Robert Badinter avait prouvé que ça ne pouvait pas être Montand qui avait tué. Le sang était sur la lame, les deux victimes étaient sur la lame du couteau de Buffet. Et il dit, je me suis fait le serment que tant que je vivrai, je combattrai la peine de mort à cause de cela. Puis il y aura l'affaire Patrick Henry, où il fera le procès de la peine de mort. Le 18 septembre 1981, l'avocat devenu ministre de la Justice va prononcer un discours historique suivi d'un vote contre 117 voix pour 363. L'Assemblée nationale adopte l'abolition de la peine de mort. Savez-vous qu'aujourd'hui, en 2024, près d'un Français sur deux souhaite le rétablissement de la peine de mort. Après le lynchage le mois dernier de Shamseddine, un adolescent de 15 ans, le maire de Viry-Châtillon faisait remarquer qu'il n'était nécessaire de redire qu'il y avait le bien et le mal. Certes, c'est une excellente chose, mais qui définit le bien et le mal? Et bien souvent, vous le savez, on appelle le bien mal et le mal bien. L'homme rejette la loi de Dieu et ses commandements. Alors, le résultat n'est pas étonnant. C'est ce qu'avertissait l'apôtre Paul à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du désir plutôt que de Dieu. Écoutons la conclusion du discours de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 12, verset 13. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Et plus tard, Michée reprendra un peu le même thème. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ce qui devrait être inscrit sur le fronton de tous les établissements publics. L'être humain est un être social qui vit donc en relation avec ses semblables. À un pharisien qui lui demande quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui ressemblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si cette loi était appliquée, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais à cause du péché, ce n'est pas le cas, vous le savez. Alors Dieu a prévu le principe de gouvernement constitué avec des lois, ce que rappelle l'apôtre Paul dans Romains 13, verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Il précise au verset 5 que nous devons obéir non seulement par crainte de la punition, mais par motif de conscience. Toutefois, cela n'implique pas l'obéissance à des ordonnances immorales ou antichrétiennes, où notre devoir est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelques exemples, Pierre, l'apôtre Pierre, qui continue d'enseigner, et l'apôtre Paul également, contre les autorités. Daniel et ses compagnons qui refusent d'adorer les dieux de Nebuchadnezzar. Et puis il y en a bien d'autres. Plus près de nous, pour motif de conscience, Martin Luther King s'opposa à l'état de son pays pour l'égalité des droits civiques des Noirs américains. Les psalmistes et les prophètes dénoncent les injustices et font appel au juste tribunal de Dieu, parfois avec des mots très durs. Et Dieu les entend. Nous aussi, nous devons dénoncer les injustices. Mais en aucun cas nous devons nous venger nous-mêmes. Dieu est juste et il demande à l'être humain de pratiquer la justice. La peine de mort fut pratiquée un temps, commandée par la loi de Moïse. Mais ce code pénal est lié à une époque révolue. Jésus n'a-t-il pas renvoyé libre une femme adultère qui, d'après cette loi, aurait dû être mise à mort ? Alors j'avais prévu la justice dans les psaumes. On va se contenter de voir quelques enseignements de l'Ancien Testament. Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait Jésus ? Aimez-vous les uns les autres. Que dit l'Ancien Testament ? Ézéchiel 18, versets 21-23. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt que de le voir changer de conduite et vivre ? Exode 23. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi alors qu'il est égaré, tu ne le prendras pas, tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras néanmoins à le décharger. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Oui, donc cette recommandation et cet ordre étaient déjà dans le Lévitique. Proverbe 24, 17-18. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait et cela lui déplairait. Proverbe 25, verset 21. Si ton ennemi a faim, ton ennemi, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Voyons maintenant la justice de Job. Vous connaissez l'histoire. Il était une fois un homme du nom de Job. Il était heureux, il était riche. Tout allait bien pour lui, dirait-on aujourd'hui. Il avait une femme, de nombreux enfants. Et son seul souci à leur égard était de les voir rester dans le droit chemin. Bref, en tout point, il était irréprochable. « As-tu remarqué, mon serviteur Job, dit l'Éternel à Satan, personne n'est comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan lui répond, « Oui, mais c'est parce que tu l'as protégé. Mais si tu touches à ses biens, si on touche à ses biens, mais il te maudira. » Et l'Éternel laisse Satan s'en prendre à ses biens, mais pas à sa vie. Et c'est alors que tous les malheurs du monde s'abattent sur lui. En moins de temps qu'il faut pour les raconter, il perd ses richesses, ses troupeaux et bien pire, ses enfants. Il lui reste encore la santé, mais pas pour longtemps. Une deuxième vague de malheurs tombe sur lui. Il est atteint d'une maladie de peau du genre de la lèpre. Il devient affreux et il ne peut plus rester chez lui. Il se retrouve sur la décharge publique. Il doit abandonner tout. Et il est horriblement seul. Même sa femme ne le comprend pas. Tout au long du livre de Job, il ne sait redire que sa souffrance physique, psychologique, morale, l'angoisse devant la mort prématurée, l'incompréhension des amis. Et surtout, le pire, le silence de Dieu. Il égrène toute une douleur, dans des termes admirables d'ailleurs, et répète sans cesse son incompréhension devant la justice qu'elle représente à ses yeux. Car à l'époque où le livre a été écrit, tout le monde en Israël pensait que la justice de Dieu consiste à récompenser les bons et à punir les méchants. Ses amis, évidemment, pensent comme eux. Et il répète à longueur de journée le même discours, puisque la souffrance est toujours une punition, si tu souffres, c'est que tu as péché. Fais ton examen de conscience. À quoi Job répond, non, je vous assure, je n'ai pas péché. Et les amis de surenchérir, tu as doublement tort. Tu as péché puisque tu souffres. Et en plus, tu as l'audace de le nier. Job clame, hurle sa souffrance et sa révolte, mais sans jamais cesser d'affirmer « Dieu ne peut être que juste ». Lui-même va faire un long chemin. Au début du livre, il répète sans cesse « Je vous dis que je n'ai pas péché, donc ce qui m'arrive est injuste », sans s'apercevoir qu'en disant cela, il est bien dans la même logique que ses amis. Si on souffre, c'est qu'on a péché. Peu à peu, la voix de l'expérience parle. Il a vu combien de fois des méchants vivre heureux, impunis et mourir sans souffrir, pendant que des gens honnêtes, des innocents, ont des vies d'enfer, avec parfois des longues agonies. Non, il n'y a pas de justice, comme on dit. Et ses amis ont tort de prétendre que les bons sont toujours récompensés et les méchants toujours punis. Alors, il comprend qu'il s'est lui-même trompé sur la justice de Dieu. À la fin, à bout d'arguments, il fait acte d'humilité et reconnaît que Dieu seul sait les mystères de la vie. Alors, Dieu prend la parole. Il ne lui fait aucun reproche. Par contre, il dit à ses amis que leurs explications ne valent rien. Il va jusqu'à dire « Seul Job a bien parlé de moi ». Ce qui veut dire qu'il a le droit de crier. Il a le droit de se révolter. Puis, il invite Job à contempler la création et à reconnaître humblement son ignorance, comme un père reprend gentiment mais fermement un fils. Dieu fait comprendre à Job que ses pensées ne sont pas nos pensées et que si sa justice nous échappe, cela ne nous autorise pas à la contester. Job est un homme intègre et droit, et il comprend la leçon. Il avoue, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Job 42, versets 3 à 6. Et vous savez que l'Éternel le rétablira, et Job recevra plus de bénédictions dans ses dernières années qu'il n'en avait reçues dans ses premières. Cela nous amène à la justice de Dieu. Dieu est grand, il est amour, Il est miséricordieux et il est juste. En désobéissant à l'ordre de Dieu qui interdisait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'être humain s'est condamné lui-même à mort, selon la parole de l'Éternel. Genèse 2, verset 17. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu, le juste, ne peut pas se renier lui-même. Et il a donc dû condamner Adam et sa descendance à mort. Comme le précisera d'ailleurs l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est aussi miséricordieux. Alors comment concilier la justice et la miséricorde ? Dans sa justice, Dieu nous juge parce que nous sommes coupables. Puis, dans sa miséricorde et son amour, il vient en la personne de son Fils, Jésus-Christ, et paie le prix pour nous. Par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu est à la fois juste et miséricordieux. L'apôtre Paul résume bien l'action de Dieu en notre faveur. Romains 5, les versets 6 à 10. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Je ne veux pas terminer ce message sans parler de notre condamnation. Nous sommes condamnés à mort, mais graciés. Le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a subi le pire et le plus déshonorant des supplices du point de vue juif, car tout homme pendu au bois est maudit. La mort de Jésus sur la croix, signe de jugement et de condamnation, a annulé l'acte qui nous condamnait. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Nous sommes déclarés justes au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La justice de Dieu est entièrement empreinte de son amour. C'est parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, soyons reconnaissants, infiniment reconnaissants. C'est cela la justice de Dieu en notre faveur, guidée par son amour. Nous vivons dans un monde où l'injustice, les situations intolérables nous troublent et nous font réagir. Nous sommes appelés à dépasser nos réactions premières et à aller plus loin que nos sentiments du moment. Alors, pour terminer, je vous propose une perspective, celle d'un autre monde. À cause du péché, le mal est entré dans le monde. Si on parle de justice, c'est parce qu'il y a des injustices, et s'il y a des injustices, c'est parce que le mal est entré dans le monde. Ce mal, sous quelque forme que ce soit, combien il nous pèse. Il peut venir de l'extérieur, mais il peut aussi nous ronger de l'intérieur. Il peut être conscient ou inconscient. Mais il est là. Alors imaginez vivre dans un monde où le mal n'existe plus. Imaginez. Eh bien, c'est vers ce monde que je veux terminer mon propos ce matin. Écoutons ce que Dieu déclare. Ésaïe 65, versets 17 et 18. C'est l'Éternel qui parle, « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois. On n'y pensera plus. » Ésaïe 11, 9. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Apocalypse 21, verset 24. Dieu habitera avec les hommes, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait aura disparu. Imaginez ce monde, quel soulagement, quelle libération, quelle liberté. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort et il est les prémices des ressuscités. Il vit, il est à la droite du Père, il intercède pour ceux qui l'aiment. Il a annoncé son retour à plusieurs reprises et nous l'attendons. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Il viendra pour juger tous les humains et régner éternellement. Vivons notre vie avec foi. Un jour, nous serons avec le Christ Jésus. Nous vivrons dans un monde où le mal n'existera plus. C'est cela notre espérance. Gloire à Dieu. Amen.